Je vais répondre pour m'expliquer. D'abord, pour moi, tout est rapport de force. Hein, c'est-à-dire que, voilà, on vit ensemble, et à l'intérieur donc d'une société, il y a voilà, des formes d'organisation, et il y en a donc certaines qui sont codifiées, et puis certaines donc qui sont plus libres, on pourrait dire. Voilà, donc, du coup, tout est rapport de force. Mais la grande, la chose, si vous voulez, que j'ai longtemps tenté d'expliquer, c'est que si tout est rapport de force et qu'on est dans une société, chacun va donc inventer un système ou éventuellement un règlement, une loi, un mode d'organisation. Et donc on peut dire que tout existe. Voilà, tout est là. On pourrait dire que tout est devant nous. Et simplement, ce qu'il faut, c'est, avec ce que l'on a devant nous, il faut peut-être le réassocier autrement. C'est-à-dire qu'il faut le recomposer autrement. Et donc, moi, je travaille avec le tout est là. C'est-à-dire que si, devant le tout est là, il y a en effet un excès de délégation, de ce que la puissance publique devrait faire, et que cet excès de délégation est souvent un excès vers le privé, qui retrouve un intérêt que la puissance publique délègue au privé. Dans le tout est là, j'essaye de comprendre pourquoi il y a délégation. Alors, est-ce qu'il y a délégation parce qu'il y a incompétence donc par la structure qui peut se permettre de déléguer, c'est-à-dire qu'elle peut considérer que elle n'a pas compétence pour régler un problème, donc elle le délègue à quelqu'un qui va le régler. Mais on peut penser que c'est peut-être la pression dans le rapport de force de celui qui va en être le délégataire qui demande à celui qui peut lui déléguer de lui donner éventuellement cette charge qui devrait relever de la puissance publique pour que lui-même oriente ou éventuellement gagne énormément d'argent avec cette délégation. Donc moi, dans le tout est là, je regarde ça. Et je me dis, si je prends l'exemple, admettons, du partenariat public-privé, si aujourd'hui le partenariat public-privé existe, c'est bien parce qu'à un moment donné, le système dans lequel nous sommes organisés empêche éventuellement une collectivité locale d'emprunter pour réaliser un équipement qu'elle devrait réaliser par nécessité. Exemple, un hôpital. Elle a la nécessité de régler ce problème. Elle n'a plus la capacité d'emprunt. Parce que la façon dont est organisé le budget de la collectivité fait qu'elle n'a pas encore consommé ses crédits, mais elle a donc encore une masse importante donc d'argent disponible pour des opérations peut-être qu'elle ne fera pas, et elle ne peut pas engager une nouvelle opération parce que sa capacité d'emprunt étant atteinte, il faut qu'elle passe par une autre voie pour emprunter. Donc elle passe par le partenariat public-privé, elle fait porter à un privé donc la charge financière qu'elle ne peut plus supporter. Le privé attend le fruit mûr qui tombe, il sait que la collectivité ne peut pas et que les banques ne prêteront plus, que l'État, le préfet interdira donc le contrôle de l'État autoritaire, et heureusement interdira donc la banqueroute, et éventuellement le privé attend. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est si il y a ça, y a-t-il une autre délégation qu'une délégation d'intérêt privé et en renchérissant la enfin, disons, pénalisant la collectivité qui va devoir après rembourser à un taux bien plus élevé que si elle empruntait elle-même à cette personne qui va construire pour elle, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas comme j'appelle ça, enfin, comme si est-ce que je pouvais chanter ce truc? Qu'est-ce qui fait qu'un hôpital a été demandé et que la collectivité ne peut le construire que par le privé? Est-ce qu'on ne peut pas reposer la question, fallait-il l'hôpital? Ou n'y avait-il pas déjà un hôpital que l'on fermait au prétexte qu'il ne correspondait plus à la norme et que donc, du coup, c'était plus facile, plutôt que de remettre en cause la norme, de passer par la voie du progrès, de donner la construction d'un nouvel hôpital? Exemple, mettons, je prends l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, fallait-il construire un nouvel hôpital en PPP et ben disons, enfin, presque cassé, ou voilà, ou totalement démantelé l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Et donc, comme les choses sont séparées, personne, et quand je dis qu'on est dans un imbroglio et que personne ne regarde, est-ce que quelqu'un, est-ce qu'un tiers, un tiers, et ce tiers, c'est pas un tiers, en effet, un despote éclairé, c'est un tiers citoyen qui à un moment donné peut poser la question et qui dit hey, attention, là c'est la même chose que là et ça serait mieux de faire ça dans l'intérêt général. Il peut être un élu, un élu éclairé, il n'y a pas que des despotes éclairés, il peut y avoir un élu démocratiquement élu et qui soit éclairé, il peut y avoir un conseil municipal éclairé, mais il peut y avoir à un moment donné un écran qui est créé qui fait que ce conseil ne peut pas voir la chose, ou qu'éventuellement un seul membre du conseil qui est contre tous l'a vu, ou éventuellement quelqu'un qui est à l'extérieur du conseil, qui n'est donc pas un élu, et qui a la conscience citoyenne, peut poser la question. Voilà. Toute la question est là. Le tiers, il est là. Alors, la parole, oui, c'est sûr que la parole, mais la parole populaire, elle existe. Elle existe plus que tout. Car si on élimine tout, peut-être que c'est la parole. Ce n'est pas l'éloquence au sens de l'éloquence avec aisance dans un milieu, dans un salon et tout. La parole populaire, elle existe. On l'a vu dans les luttes syndicales, ouvrières et ainsi de suite, et dans les luttes même dans les banlieues et tout. Moi, j'ai travaillé énormément dans les banlieues. On voit que c'est encore la parole qui est présente. Donc, moi, je crois à la parole. Voilà. Et donc, je pense qu'en effet, un leader ouvrier, il a peut-être la parole... qui porte sa catégorie, un leader paysan ou un leader, je sais pas quoi, intellectuel et tout. Bon, il y en a un qui porte, donc bon, voilà, il y en a un qui se lève peut-être, mais il se lève peut-être pas pour un temps. Donc, un, c'est comme ça que je désigne le tiers, c'est donc dans un cadre de rapport de force, c'est un tiers aiguillon, c'est un tiers petit, c'est un tiers qui en effet, parce qu'il est libre de tout, qu'il n'est pas englué, que lui, il peut poser une vraie question, donc c'est vraiment, il est sorti de la masse, il est l'aiguillon qui va re-rentrer dans la masse pour déstabiliser la masse. Et donc, ce tiers, eh ben, il faut qu'il se révèle. Et donc, pour qu'il se révèle, il faut à un moment donné pouvoir le repérer ou pouvoir lui laisser la parole. Donc, sans ça, quand même, qu'on est dans une société démocratique, on peut encore, et moi, je ne critique pas du tout la France, on peut encore facilement prendre la parole sans une censure quand même immédiate. On peut encore, c'est le pays où il y a le plus d'associations, c'est le pays où il y a le moins de mécénat, parce que justement, le mécénat passe par la vie associative en France. On pourrait dire c'est le temps donné par les associations qui remplacent, en fin de compte, cet argent que je ne supporte pas du mécénat, de quelqu'un qui se dédouane de tout le mal qu'il a fait en donnant de l'argent, en faisant croire que, puisqu'il a gagné de l'argent dans l'industrie, il va pouvoir donner de l'argent pour le social. Donc du coup, moi, je pense que ce tiers, c'est le tiers démocratique qui est indispensable pour remettre tout le temps la société. Et ce tiers, il est mobile. Il est, comme vous l'avez dit justement, il doit éventuellement créer un dispositif et le dispositif doit disparaître quand le dispositif ne sert plus à régler le problème pour lequel le tiers a réclamé la création d'un dispositif. Alors moi, je l'ai quand même souvent fait, c'est-à-dire de dire, est-ce que je peux mettre en place un partenariat public-populaire ? Est-ce que je peux mettre un PPP qui s'opposerait au P du privé ? Est-ce que je peux reprendre en main ? Mais ce n'est pas anecdotique. À ce moment-là, tout est anecdotique, parce que quand un élu mène une action, elle est anecdotique, et ainsi de suite. Je veux dire, une aire de jeu pour enfants, c'est anecdotique et tout. Ça n'est pas anecdotique, parce qu'à un moment donné, c'est un objet qu'un tiers fait pour le compte de la collectivité publique en tant qu'individu du bien commun. Il fait un objet du bien commun, et après, il disparaît au niveau de son dispositif, parce qu'on n'en a pas besoin. Alors moi, j'ai toujours fait cette façon de faire, si vous voulez, où j'ai été du côté de celui qui entendait celui qui réclamait, parce que j'ai été élu, j'ai été même conseiller d'un ministre, donc j'ai même été à un moment donné où je pouvais entendre une parole qui venait de très loin, si vous voulez, et j'ai été quelquefois cette parole de très loin remontant pour agir. C'est-à-dire, j'ai fait exprès d'être dedans et d'être dehors, d'être en haut et d'être en bas, si vous voulez, et de m'apercevoir que ça pouvait marcher. Donc, moi, je crois que... on ne s'est pas bien compris, mais je préfère l'éclaircir. Un, je ne critique pas mon pays. Je pense que la France est un pays critique, et c'est sa grande force. C'est que c'est un pays râleur, c'est un peuple râleur, et c'est un peuple qui a des fois devant lui la richesse pour faire les choses, mais qui hésite et qui, en effet, change d'avis. Il n'est pas dans le pragmatisme anglo-saxon, c'est sûr. C'est formidable pour ça, donc c'est un peu plus à l'heure. Donc j'aime bien le caractère critique. Et c'est pas pour scier la branche, mais c'est pour toujours, en fin de compte, hésiter. Donc je crois au tâtonnement, je crois à l'échec, donc je crois à l'expérimentation, parce que c'est l'expérimentation qui permet... Toute expérimentation ne produit pas un résultat positif. Et ensuite, si vous voulez, moi je pense que c'est peut-être en France... Parce que comment, voilà, c'est pas qu'il y ait une compétence ou une concurrence entre les pays, mais c'est peut-être où chaque nation, on pourrait dire, et donc comme moi je suis français, c'est chaque nation devrait pouvoir expérimenter en fonction de sa culture, parce que voilà, la constitution des peuples, des nations, des États, c'est pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des choses qui sont sur le temps long, hein, y compris d'ailleurs la religion. On ne peut pas comme ça dire que voilà, la religion n'a jamais existé, que t'as un État laïque, et ainsi de suite. Il y a une constitution longue d'une culture et tout. Et donc c'est sur le temps long. Et là, peut-être que le développement durable, je pense qu'il est anecdotique. Voilà, pour moi, il est qu'un petit moment, comme l'industrie l'a été, pour un petit moment par rapport à l'histoire de l'humanité et du pays dans lequel je suis. Et donc moi, je joue tout le temps dans ce petit moment. Je suis une sorte d'aiguillon du petit moment, et je pense que c'est le petit moment qui fait marcher la grosse machine. Quoi, voilà, c'est tout. Et donc, c'est pas que je veux répondre à tout le monde, mais y compris, mettons, même pour les enfants. Moi, je suis en effet, moi, je suis pas du tout l'architecte de la participation, comme on veut me faire porter, où je suis, on dit tout le temps, il est iconoclaste, il est inclassable et tout, c'est pas vrai. Moi, j'expérimente. Et donc, j'ai fait des choses avec des enfants, et en effet, des fois, il faut faire des choses avec des médecins, et des fois, il faut faire des choses avec des grands-parents qui parlent des enfants, parce qu'ils ont été enfants, et donc, on oublie toujours que, voilà, on a été tous, et surtout à la fin de sa vie, on a tous presque, on a tout été, on pourrait dire. Et on oublie aussi qu'un élu, eh ben, c'est un parent. Ça peut être un grand-parent, un élu, ça peut être un chômeur, ça peut être un ouvrier, ça peut être un malade, un élu, ça peut être une femme ou un mari, et ainsi de suite. Et donc on oublie toujours que voilà, on est peut-être, on porte tous en nous toutes ces catégories à des moments donnés de sa vie, quoi. Et donc moi j'ai été enfant, et donc voilà, je peux parler au nom d'un enfant, parce que j'ai été enfant. Voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui je suis un grand-père, et donc je peux parler en tant que grand-père à mes petits-enfants. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce temps long, quoi. Voilà. Et moi je crois au temps long. Ça, je pense que ce qu'on veut nous faire croire, c'est le temps de l'événement, le temps court, le machin, l'action immédiate, et tout, c'est faux. Il faut s'inscrire dans le temps long et piéger le temps court. Et tuer l'événement. Donc moi en gros, voilà, c'est pour ça que je crois pas au règlement. Parce que, sont contredits assez vite fait, y compris par même ceux qui les ont édictés. Voilà. Mais je crois qu'au rapport de force. Que le rapport de force. Et c'est un rapport de force qui n'est pas obligatoirement un rapport de force violent. Ce n'est pas un rapport de force d'affrontement, c'est un rapport de force de masse qui cohabite entre elles, et dont tout ça est un mouvement complexe, parce que tout est contenu dans tout, mais je crois qu'au rapport de force. D'ailleurs, il n'y a que ça qui m'intéresse, le retournement d'ailleurs par la petite chose dans un grand rapport de force. Non. Merci de m'avoir élu. Je démissionne dans l'instant. Je rends mon mandat tout de suite à ma...